vous propose de partager un travail en cours qui s'inscrit dans une longue histoire hein, par rapport à Devoir fait, puisque alors que ça avait été lancé à la Toussaint 2017, en janvier 2018, sous l'impulsion de l'IFE et puis aussi du rectorat et de l'Académie d'Aix-Marseille, on a été regarder ce qui se passait avec ce nouveau dispositif. Pour situer un petit peu notre travail et nos modalités d'intervention, notre cadre théorique, c'est celui de l'ergonomie de l'activité, qui a la particularité dans nos interventions d'essayer de constituer un milieu de recherche associé à un milieu de travail, donc avec la participation de collègues volontaires sur la durée, avec des méthodes qu'on appelle des méthodes d'analyse du travail, méthode indirecte, c'est-à-dire qui essaie de contourner la difficulté qu'il y a à récupérer l'expérience vécue, puisque voilà, l'analyse du travail nous apprend que lorsqu'on demande à quelqu'un comment il s'est pris pour faire, il a tendance naturellement à dire non pas ce qu'il fait vraiment, mais plutôt ce qu'il pense qu'il faudrait faire, quoi. C'est-à-dire, on a tous tendance à se caler sur la prescription. Et puis, l'expérience, elle est aussi difficile à comprendre et à mettre à jour parce que la plupart des gestes efficaces sont automatisés, parce que voilà, dans l'immédiat d'un entretien, la plupart de ce qui est important échappe voilà, à la conscience. Et donc on a des outils, hein, enregistrement vidéo, audio, méthode d'autoconfrontation, etc., qui caractérise notre manière de faire et qu'on a mis en œuvre dès le début du dispositif Devoir fait. Et donc, voilà, le travail qu'on va vous présenter s'inscrit dans la durée. Au tout départ, on s'est intéressé à la prescription, à l'appropriation de la prescription. On s'est aperçu, voilà, qu'il y avait déjà des choses à travailler, comme par exemple le fait que le vade-mecum était destiné au chef d'établissement. Donc, l'institution donnait au chef d'établissement une responsabilité particulière hein, de mise en place du dispositif. Ça voulait dire aussi que cette prescription ne pouvait pas être l'objet de débat entre les différents acteurs. Donc voilà, c'était tout à fait intéressant. On s'était intéressé, puisqu'on est dans l'ergonomie de l'activité, à l'organisation du travail des différents acteurs, là où on s'est aperçu qu'évidemment, hein, voilà, il y a eu des frottements, des difficultés, que ce soit l'organisation du travail des intervenants, Devoir fait, des enseignants dans leur classe, des élèves, hein, le travail des élèves également. On a été observer aussi les répercussions en milieu familial, auprès des parents, la perception qu'ils avaient du dispositif. Voilà, on a eu une entrée logique hein, par le haut et le macro. Puis, à l'heure actuelle, et c'est ce qu'on va vous présenter, on est descendu un peu plus dans le grain fin, même si on constate toujours que voilà, des dysfonctionnements sont toujours présents et qui relèvent de l'organisation du travail et de l'appropriation de la prescription. Hein. L'appropriation de la prescription, on constate encore que peu des acteurs impliqués connaissent vraiment, par exemple, certains éléments du vade-mecum qui, au passage, je le signale, ça avait fait l'objet d'interventions à l'IFE précédente avec Christine, où on montrait qu'il y avait une intention de la part de l'institution au plus haut niveau de modifier par l'intermédiaire de Devoir fait les pratiques enseignantes dans les classes. Et donc on voit que il y aurait eu une nécessité, et c'est ce qu'on essaie de faire nous dans nos modalités d'intervention, une nécessité de mettre en débat ces questions, plutôt que de voilà les laisser infuser ou diffuser ou percoler de manière insidieuse. Donc un travail de co-analyse hein, qu'on essaie de mettre en place, de co-analyse du travail, donc qui nécessite, ça a été évoqué précédemment, de la durée, Un milieu de travail associé à un milieu de recherche, ça veut dire s'inscrire dans la durée, permettre la controverse, le débat, la controverse. C'est essayer de mettre en place une confiance au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire au sens défini par Marcel Mauss dans son livre Sociologie et Anthropologie, en disant, voilà, je n'accepte d'apprendre ou de collaborer qu'avec quelqu'un que je juge efficace dans ce qu'il fait. Et donc, comment on arrive à créer cette confiance mutuelle et pas simplement dans le discours, la question des outils qui circulent et de leur appropriation, et on va vous en présenter un qui pour nous est particulièrement emblématique des difficultés qui peuvent se présenter aux acteurs dans le cadre du dispositif. Donc notre idée forte dans nos interventions, c'est bien sûr, puisque c'est notre travail de chercheur, de produire des connaissances, mais c'est aussi de permettre aux professionnels impliqués avec nous de résoudre un certain nombre de difficultés, de gagner en efficacité, non pas dans une perspective néolibérale hein, d'efficacité, de productivité, non, mais d'efficacité associée à ce qu'on appelle, nous, la santé. Au sens là aussi défini plutôt par Georges Canguilhem, hein, qui dit que voilà, la santé, c'est pas simplement l'absence de maladie, c'est plus que ça. Hein, c'est la capacité à ouvrir des marges de manœuvre sur son environnement, à reprendre la main sur son environnement et à sentir de manière y compris subjective, de sentir l'efficacité comme un moyen de se reconnaître dans ce qu'on fait, dans la qualité du travail qu'on produit. Donc, une inscription depuis le début du dispositif. Et aujourd'hui, ce qu'on voudrait vous présenter, c'est un grain un peu plus fin. Parce que voilà, on a ajusté au fur et à mesure les modalités d'intervention et Christine a d'ailleurs été décisive dans ces modalités d'intervention en proposant sur la durée non plus ce qu'on faisait habituellement, c'est-à-dire des interventions perlées où en tant que chercheur on allait régulièrement dans les établissements ciblés sur tel ou tel aspect du dispositif. Christine a proposé, et on reviendra là-dessus, une modalité particulière. Qui est l'intervention massée sur un temps très court, avec énormément de chercheurs impliqués, et en permettant de tenir les liens entre celui qui prescrit les devoirs, le professeur, les différents acteurs, les élèves, et regarder tout ça, comment ça fonctionne dans un temps et un espace bien déterminé. Voilà ce que je voulais donner comme cadre de présentation de ce travail. Christine va le resituer encore plus précisément, puisque au début de devoir fait, les recherches qui étaient menées étaient impulsées soit par l'IFE, soit de manière un peu ponctuelle par les rectorats, alors que là, on va vous montrer sur Aix-Marseille. Une intervention conventionnée, plus importante, ciblée.
Donc effectivement, la recherche là, dont il est question, c'est en réalité une réponse à un appel à projet. Et cet appel à projet, il est porté à la fois par la délégation académique à la formation à l'innovation, hein, donc la DAFIP, d'un côté, et de l'autre, elle est portée par la structure fédérative de recherche, qui en fait propose hein, dans ces projets qui visent finalement le développement de la coopération entre d'une part les réseaux d'éducation prioritaire de l'académie et de l'autre côté la recherche qui est présente donc au sein des différents laboratoires, hein, dont le nôtre, le laboratoire ADEF auquel on appartient avec Jean-Claude. Ce sont des projets qui se portent sur 2 années, mais qui sont renouvelables. Donc voilà, hein, comme vous l'a dit Jean-Claude, on travaille depuis 2017 sur le dispositif Devoirs faits, et puis là, il sera d'autant plus renouvelable avec les conditions de la crise sanitaire. Alors, dans le cadre de cet appel à projet, hein, notre équipe a répondu à une demande qui émane d'un réseau, notamment le réseau Kiné à Marseille, autour donc de la question évidemment de l'aide aux devoirs. Voilà. Donc cette demande, elle porte très explicitement sur l'accompagnement des équipes volontaires du réseau pour concevoir, comme vous l'avez tous dit, hein, pour concevoir et mettre en œuvre une espèce de continuum, en tous les cas une synergie entre d'une part le collège, le lycée, mais également l'école primaire. Voilà, comme vous pouvez le voir donc sur cette carte du réseau Kiné, c'est un projet qui est extrêmement ambitieux, que nous avons accepté et que nous avons reformulé conjointement, on va le voir. Juste, vous voyez dans ce réseau Kiné, hein, c'est un réseau qui est assez circonscrit, donc du point de vue de la recherche, c'est plus facile à travailler parce que les espaces sont moins distendus, mais à la fois, il y a là une organisation du travail, comme disait Jean-Claude, hein, qui est un emboîtement de plusieurs structures. Donc vous voyez, il y a le réseau lui-même, il y a le réseau des réseaux qui lui-même vient s'inscrire dans le territoire apprenant, qui lui-même est labellisé cité éducative. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais on voit là tout l'intérêt de la boussole qui a été présentée par Marie et qui aide évidemment notamment les professionnels et les comités de pilotage à se situer dans ce millefeuille de prescriptions et d'organisation de travail. Alors, je ne reprendrai pas l'organisation de ce projet, hein, comme l'a dit Jean-Claude, il y a effectivement une série d'organisations que nous avons l'habitude de mettre en œuvre, hein, sur différentes périodes inscrites dans le temps, qui nous permet à la fois au travers des premières rencontres, hein, puis des observations, des co-analyses et puis cette production d'outils. Voilà, je ne reviens pas là-dessus. Simplement, à chaque fois, ces éléments-là font l'objet de restitutions. Au départ, avec ce qu'on a appelé des collectifs de professionnels, c'est-à-dire plutôt des professionnels qui sont plus ou moins intéressés par la question, et au fur et à mesure de l'avancée dans notre travail, ce collectif de professionnels se transforme en collectif de travail et on aura peut-être l'occasion d'y revenir. En tous les cas, les premières rencontres, elles nous permettent de constituer évidemment une équipe. Et vous avez beaucoup insisté, hein, pendant ces deux jours. Cette équipe, elle est à la fois pluricatégorielle et pluridisciplinaire. Dans un premier temps, on a travaillé avec les enseignants du collège. On s'est plutôt centré sur les enseignants du collège. Il y a à peu près une quinzaine de professionnels qui interviennent sur le dispositif Devoirs faits dans ce réseau Kiné. Et nous avons travaillé en particulier avec 9 enseignants et 3 AED, plus exactement 2 AED et 1 AEP, voilà, avec des disciplines différentes, comme vous pouvez le voir apparaître sur l'écran. On a également travaillé au niveau du primaire avec le directeur de l'établissement d'une école et 2 enseignants CME1 et CE2 autour du dispositif MARS, qui est un dispositif phare de Marseille. Hein. On pourra y revenir aussi si ça vous intéresse. Dans cette équipe, on travaille en étroite collaboration évidemment avec le conseiller, la conseillère pédagogique, le coordo, mais aussi les formateurs d'éducation prioritaire et également avec Karine, hein, qui est conseillère à la cellule des politiques de la ville. Nous sommes une équipe de recherche, vous voyez 11 enseignants-chercheurs, une équipe là aussi pluricatégorielle puisqu'il y a des sensibilités, je dirais, scientifiques et méthodologiques différentes, puisque nous travaillons avec des didacticiens, mais aussi des sociologues, et puis Jean-Claude, Pierre Allais et moi, qui sommes plutôt d'une sensibilité, comme il a dit, sur des questions des sciences du travail, avec plutôt une approche ergonomique et clinique de l'activité de travail. Nous avons également insisté pour que se mette en œuvre un comité de pilotage, un COPIL, et ce COPIL, comme vous le voyez, il associe en fait deux réseaux, qui sont deux réseaux territoires apprenants, qui est donc le réseau Kiné à Marseille et Roumanie sur Avignon, dans lequel Jean-Claude avait déjà beaucoup intervenu avant même le dispositif Devoirs faits. Et donc là, vous voyez, hein, un petit peu tout le travail qui rassemble effectivement les chefs d'établissement, hein, et les adjoints, ainsi que l'IPR référente des établissements, les IEN, le DAFIP, et la responsable académique de l'éducation prioritaire et quelques chercheurs. Donc, dans ce comité de pilotage, hein, comme il était dit ce matin, hein, c'est effectivement pour travailler sur les leviers, hein, et les marges de manœuvre possibles et donner un espace possible de la réalisation de ce travail avec ces différentes équipes. Sur la question de l'observation, je vais également très vite, hein, Jean-Claude en a parlé, on a une habitude, hein, ces interventions perlées qui justement s'inscrivent dans le temps et qui permettent un certain nombre de choses, notamment d'être mieux identifiés par les personnels et les élèves, qui permettent aussi à l'équipe de recherche de se familiariser avec l'ensemble des personnes, mais également avec les problématiques de l'établissement, les problématiques du réseau et donc de toutes les personnes avec lesquelles on peut travailler, qui permet de constituer des équipes, mais surtout hein, qui permet d'affiner la commande, parce que vous l'avez compris, c'est une commande institutionnelle. Donc là, je ne m'étendrai pas, hein, mais évidemment, il y a tout un intérêt à bien distinguer la commande, vous l'avez compris, hein, qui est institutionnelle avec la demande du terrain et des professionnels. Ça nous permet donc d'élaborer un cahier des charges. Hein, donc je vais vite dans ce cahier des charges. Durée de l'intervention, quels sont les objets communs à partir desquels et sur lesquels on a travaillé, quelles sont les modalités de collaboration et d'observation, quel sera l'usage des images vidéo, quelle sera la fréquence des rendez-vous avec les professionnels et à quel moment y aura-t-il et en quoi consisteront ces phases de restitution. Donc Jean-Claude vous l'a dit, on a mis en place hein, une intervention massée, cette intervention massée donc d'une semaine. Et pendant cette semaine, par exemple, c'est ce qui nous a permis de suivre durant toute cette semaine du 30 septembre au 8 octobre, du matin 7h30 au soir 18h et parfois plus, hein, toute l'équipe d'enseignants, d'élèves et d'intervenants dans le dispositif d'aide aux devoirs. Donc, suite à ces temps d'observation, parfois doublés d'entretien, hein, nous avons donc convenu de l'intérêt de se centrer sur la mise en rapport de deux milieux pour l'étude. Hein, dont on considère évidemment qu'ils sont en étroit rapport de dépendance, où on va interroger le rapport donc de dépendance entre la classe et le dispositif d'aide aux devoirs. Et ce qui nous intéresse tout particulièrement dans cette boucle, qui, comme vous le voyez, hein, part de la classe qu'on a appelée le système didactique principal, hein, donc dans cette boucle hein, qui part de la classe pour revenir à la classe en passant par un système didactique auxiliaire, c'est-à-dire ici le dispositif devoir fait. Ce qui nous intéresse ici, ce sont évidemment les processus et les logiques qui sont en l'œuvre et que nous étudions à travers l'activité conjointe des enseignants, des élèves, mais également des intervenants qui s'efforcent de conseils pour faire circuler tout un ensemble d'objets, de savoirs en jeu d'un milieu à un autre. Alors, évidemment, nous nous sommes posé un certain nombre de questions hein, dans chacun de ces milieux que je n'aborderai pas ici à propos de la circulation de ces objets, mais au niveau de la classe, par exemple, hein, à quel moment sont donnés les devoirs, quel type de devoirs, comment sont-ils donnés, quelle est la fréquence, bon, voilà, etc. Un certain nombre de questions. Des questions également sur le dispositif, hein, quelles sont les difficultés que rencontrent les intervenants et quelles sont les ressources à laquelle ils peuvent se rattacher. Lorsqu'on retourne dans la classe, finalement, y a-t-il un traitement du travail qui a été réalisé en dehors de la classe et notamment dans le dispositif fait? Quelle est la mobilisation de ce travail? Et ce n'est pas rien, cette question. Dans la question de la circulation des objets, on n'en parle pas, c'est entre guillemets ici. Évidemment, il y a toute la question hein, des espaces inter- et périscolaires, notamment les familles et les associations que vous voyez sur la partie droite de l'écran, avec lesquelles nous travaillons également, mais qui ne sont pas l'objet aussi de ce travail. Alors, ce qui pose problème dans ce rapport de dépendance hein, et sur la circulation d'objets d'un milieu à un autre, c'est évidemment cette question hein, cruciale, c'est la question de la transmission des informations entre les équipes, notamment entre les équipes qui prescrivent et celles qui réceptionnent le travail à faire en vue de le faire faire. Et je crois que pendant ces 2 jours, il a bien été question de cette question, cette transmission qui est cruciale, hein, fondamentale, parce qu'elle est ici à comprendre comme étant la garantie de la continuité des apprentissages en cours. Et nous l'avons observé, cette transmission, en tous les cas dans ce collège qu'il est, n'existe pas. En tous les cas, elle n'existe pas de manière systématisée, de manière institutionnalisée, voire formalisée. Et quand elle se produit, nous avons constaté qu'elle est souvent limitée à une simple transmission d'informations factuelles qui mériterait de l'avis même hein, des professionnels et notamment des enseignants qui sont impliqués dans ce travail, une réflexion d'équipe qui soit tournée vers les processus d'apprentissage, du moins ceux qui sont présents dans cette boucle. Donc, Au niveau des résultats, hein, on ne peut pas évidemment tout présenter ici. On a vraiment fait le choix avec Jean-Claude de cibler sur un tout petit objet. Et donc, on fait ce focus, hein, sur finalement cette prescription qui est assignée par l'enseignant en classe. Donc, vous le voyez, hein, une prescription évidemment qui est assignée, qui est adressée aux élèves, mais qui de fait est également assignée et prescrite à l'intervenant du dispositif. Donc là, hein, deux mots sur cette question de la réception, hein, de ces deux équipes, un petit peu, et on le verra tout à l'heure avec Jean-Claude, hein, comment ces deux équipes, à la manière de, je dirais, des équipes de jour et de nuit, hein, dans le milieu hospitalier, comment cette transmission de l'information se fait-elle? Et elle se fait à travers un outil, évidemment, comme à chaque fois dans les milieux de travail, elle se fait par un outil qui est bien connu, qui est celui de l'agenda. Hein, et qui est finalement, vous l'avez dit aussi, hein, une difficulté récurrente pour les intervenants. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, je ne sais pas si on va. Voilà, pas la peine d'aller plus loin. Voilà Julie, hein, AED. Donc tout à l'heure, la question a été posée. Oui, nous travaillons également avec les AED, évidemment. Donc voilà, hein. Est-ce que sortez vos agendas? Est-ce que vous avez noté vos devoirs? Est-ce qu'il y a un élève un petit peu plus sérieux qui a noté ses devoirs? Donc voilà, première difficulté, évidemment, chez ces intervenants et chez Julie ici en particulier, c'est que certains élèves n'ont pas écrit les devoirs. D'ailleurs, la jeune fille qui est ici, explique bien, hein, là, qu'elle ne note absolument jamais ses devoirs et qu'elle compte sur Pronote. On n'a pas le temps de développer cette question de Pronote, mais il serait intéressant d'y revenir parce qu'elle pose aussi un certain nombre de problèmes. Il manque des informations pour comprendre les consignes et donc voici ici par exemple l'un des photos d'agenda. Donc voilà, sur cet agenda bleu, pour demain, faire l'exercice au dos de la feuille. Aucune indication notée sur la discipline, de quel exercice s'agit-il, de quelle feuille. Les consignes donc sont incomplètes. Hein, autre élève, autre agenda, exercice numéro 18, page 4, S1 ou SEI, là encore, hein, on n'a pas d'explication. Ces consignes, elles sont incomplètes, mais elles sont également parfois erronées. Donc voici ici, par exemple, l'exemple, hein, de deux jeunes filles, classe de 6e, qui ont assisté au même cours de français, qui notent deux consignes différentes. Hein. Vous voyez sur votre gauche une élève qui écrit raconter à l'étape de la forêt. Alors en plus, le travail est assez mal écrit. Et de l'autre côté, recopier à l'écrit l'étape de la forêt. Donc évidemment, hein, vous comprenez bien qu'entre raconter et recopier, ça va mettre Ambre dans l'embarras, au point que elle va finalement appeler l'enseignant, on va le voir. Donc, des difficultés, hein, sur ces agendas, on ne s'étale pas, je crois que tout le monde a compris. Et pourtant, évidemment, hein, l'idée ici n'est pas de jeter l'opprobre sur les intervenants. Chacun fait des efforts, on l'a vu, des efforts notamment durant la séquence de devoirs faits, avec par exemple Julie qui confronte systématiquement les informations notées, qui regarde plusieurs agendas, qui sollicite le souvenir des élèves, parce qu'évidemment, les élèves ne se souviennent plus exactement de ce qu'il faut faire. Et puis, ben, des collègues, hein, comme Anne, qui va envoyer un message à l'enseignant concerné, notamment ici, pour savoir ce qui est à faire. Pas si vous entendez bien. Bon, Donc, je ne sais pas si vous entendez très bien, mais vous voyez là une situation qui est une situation assez particulière, hein, puisque donc Ambre, professeur de SVT, va appeler hein, le collègue de français qui va du coup se déplacer lui-même en charge du dispositif de voirfait et qui va venir réexpliquer la consigne. Et donc là, vous voyez, on est en train de filmer et à un moment, il va se relever, donc je n'ai pas gardé l'extrait, mais et qui va dire non, mais. Et qui s'adresse à nous en disant, mais attendez, vous étiez présent dans la classe, vous avez bien vu, j'ai bien expliqué, j'ai bien donné les explications, je ne comprends pas comment c'est possible qu'il y ait ce flou dans le travail qui est à faire. Voilà, on passe donc sur ces éléments-là, mais vous voyez ici cette difficulté. D'autres, hein, dans les séances de voir fait, par exemple Bruno, qui dit, moi j'ai des réserves d'exercice, parce que autre difficulté qu'on n'a pas fait le choix ici de développer, qui est bien évidemment la difficulté des quelques élèves encore hein, qui arrivent en devoir fait sans leur matériel, sans avoir écrit les devoirs, et qui dit, moi j'apporte toujours un truc, quand ils n'ont rien à faire, je préfère leur donner ça à faire, plutôt que de les laisser traîner quand ils ont leur sac de vide, quand ils n'ont pas de devoir. Et donc, vous voyez sur la droite, là, une fiche de mathématiques avec des calculs sans poser l'opération et qu'ils donnent régulièrement aux élèves qui arrivent en classe, qui arrivent dans le dispositif sans travail. Alors, chacun fait des efforts dans le dispositif. Durant les cours, hein, vous voyez ici Ahmed qui, bien sûr, est en train d'écrire les devoirs et les consignes au tableau, dont les consignes sont notées au tableau. Depuis le travail entrepris, on a même des collègues qui essayent de décrire les consignes sur une feuille et qui demandent aux élèves de les coller dans l'agenda pour réduire ce temps de prise des devoirs. Bon, je ne vous cache pas que ça soulève d'autres problématiques, hein. On a vu également qu'il y avait des temps d'explication, voire d'explicitation. Roland Guagou le disait hier, on a ici évidemment que des professionnels qui sont convaincus de la nécessité d'expliciter, de déplier et de faire très attention aux malentendus et aux sous-entendus. Donc un temps d'explicitation des consignes très important hein, qui sont données pendant ces temps de devoir, mais on a soulevé trois problèmes hein, qui sont très connus, mais qu'on a voulu souligner ici. Le premier, c'est que les explications sont évidemment données pendant que les élèves recopient les devoirs ou lorsqu'ils font autre chose, notamment lorsqu'ils finissent d'écrire la leçon ou qu'ils rangent leurs affaires. Deuxième problème, c'est que la plupart des explications ne sont finalement données qu'à l'oral et il y a peu d'élèves qui s'en souviennent lorsqu'ils sont sortis de la classe, qui est peu propice à l'attention des élèves. Et vous avez, par exemple, sur votre droite, hein, voilà, sur 11 observations, eh bien, vous voyez que ici, au milieu, hein, c'est la sonnerie. Et donc, sur les 11 observations, vous voyez, par exemple, qu'il y a 8 collègues qui, finalement, donnent les devoirs. Disons que la sonnerie serait presque l'élément détonateur du moment où on va prescrire les devoirs. Hein, seuls trois enseignants donnent les devoirs avant la sonnerie, et puis un enseignant, comme on l'a vu hein, hier matin, qui va tout au long de la séance essayer de revenir sur cette question de ritualisation des devoirs. Voilà. Donc, ici, peut-être hein, faire un petit point sur cet agenda en tant qu'outil de transmission de l'information.
On a fait le choix, hein. Alors, bien avoir à l'esprit que tout ce qui a été présenté là fait l'objet de présentations auprès des professionnels impliqués, évidemment, hein. Ce sont des traces du réel qui sont réinvesties dans des échanges, des débats, pour essayer de trouver des solutions. Et nous, ça nous permet de récupérer un certain nombre de connaissances, hein, sur le dispositif. Et l'agenda, voilà, on a décidé de mettre la focale sur cet outil parce que c'est un outil qu'on appelle intermédiaire, mais en réalité c'est un outil détourné. Hein. On a parlé d'outils institutionnels comme Pronote, qui normalement devraient permettre cette liaison entre la classe et les intervenants de devoirs faits, mais en réalité, pour tout un tas de raisons techniques, le fait que par exemple un enseignant va déposer les devoirs, que le soir en rentrant chez lui, ou qu'il n'a pas le temps de les rentrer sur son poste, sur son lieu de travail, qu'il y a des difficultés de connexion, de Wi-Fi, hein, encore en 2021 dans nos établissements, hein, il faut savoir que c'est pas de manière égalitaire que les établissements sont dotés, hein, du point de vue du matériel. Et donc, on s'aperçoit que cet outil institutionnel ne fonctionne pas. Il va être détourné par les professionnels, c'est un outil de l'élève, il va être détourné comme outil intermédiaire pour transmettre les informations avec quelques problèmes. Outil intermédiaire, Christine l'a évoqué hein, précédemment, observé dans d'autres milieux de travail, par exemple en milieu hospitalier pour la transmission des informations et dans d'autres milieux de travail également, mais en milieu hospitalier entre l'équipe de nuit et l'équipe de jour où l'organisation du travail étant ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas aux professionnels d'avoir un moment d'échange d'informations, puisque l'équipe qui finit à 7 heures, ben, elle est remplacée par l'équipe qui reprend la suite à 7 heures. Et donc, les échanges se font dans les vestiaires de manière informelle, et donc ce n'est pas satisfaisant, et on s'aperçoit que dans beaucoup d'établissements, ben, les professionnels ont inventé des outils intermédiaires différentes des tableaux Excel où on rentre les médicaments donnés, les prises en charge diverses et des problèmes des patients. Ils ont fabriqué leurs propres outils avec des post-it ou avec des tableaux blancs qu'ils se sont achetés eux-mêmes avec des feutres où ils mettent l'information pour le collègue, qu'il soit infirmier ou aide-soignant. Et là, on a un détournement de ce type avec l'agenda où ben, ceux qui interviennent pour les devoirs vont aller chercher l'information au travers de ce que l'élève aura pris comme, voilà, comme information au cours de la distribution des devoirs. Sauf que là, c'est comme si on demandait au patient, si l'infirmière de nuit disait au patient, vous direz à l'infirmière de jour que telle et telle chose, hein, et que c'est le patient lui-même qui transmettrait les informations à l'équipe de jour. Là, c'est pareil pour l'élève, c'est lui qui détient cet outil de transmission. Et donc, ça complique sérieusement les choses, puisque comme on l'a montré brièvement là, avec les extraits les images d'agenda, il y a une déperdition des informations pour plusieurs raisons. Hein. On l'a vu, le temps où c'est donné, le temps d'explication, entre ce qui est dit et ce qui est écrit, il y a un écart parfois phénoménal. Et donc, à la réception, ça met en difficulté les intervenants qui ne comprennent pas, hein, quand il y a marqué, il n'y a pas marqué la discipline, il n'y a pas marqué la thématique de la leçon. Ben évidemment, celui qui reçoit ça, ben il est en difficulté. Hein. On avait souligné dans des recherches précédentes à quel point ces intervenants de devoirs faits devaient être des super formateurs. Pourquoi ? Parce que être capable dans un instant T de répondre à la demande d'un élève dans n'importe quelle discipline, ça demande des compétences que chacun d'entre nous n'avons pas, quoi, y compris avec une expérience de plusieurs années d'enseignement. Et donc, on ne mesure pas à quel point, si en plus on vient mettre là-dessus une difficulté d'interprétation de ce qu'il y a à faire et dans quel domaine, ben, on s'aperçoit que l'agenda devient un outil encombrant. Il ne faut pas oublier, c'est un outil du travail personnel de l'élève. Hein, là, il est détourné pour en faire un outil de transmission parce que les outils institutionnels dysfonctionnent ou ne sont pas adaptés à la réalité du travail. Mais il ne faut pas oublier que c'est un outil du travail personnel de l'élève et qu'il nous permet de mettre à jour des difficultés récurrentes de certains élèves, notamment les questions de compréhension, de prise de notes, de contextualisation, de réflexivité, de mise à distance, c'est-à-dire de quelles informations j'ai besoin pour pouvoir à distance reprendre le travail qui a été commencé. Et donc ça pose la question de comment et où on apprend à l'élève à se servir de cet outil. Parce que dans tous les métiers, quels qu'ils soient, ben, un outil, on apprend à s'en servir. Et, hein, y a les techniques qui sont derrière l'utilisation d'un outil. On n'apprend pas à quelqu'un à se servir d'une tronçonneuse par essai-erreur. Hein. Et donc, on se dit, voilà, là, il y a un impensé, il y a un angle mort, il y a une zone d'ombre, considérant qu'utiliser un agenda C'est quelque chose de naturel, hein, c'est une compétence innée chez chez l'élève. Et donc, ça fait partie de c'est repéré depuis plus de 40 ans, ces histoires, de ces apprentissages implicites dont Bourdieu disait, voilà, pour réussir à l'école, je le paraphrase un peu, hein, il faut maîtriser un certain nombre de compétences que l'école ne contribue pas à faire acquérir. Et on est en plein là-dedans, hein, ces apprentissages implicites qu'on le veuille ou non, participent des inégalités face aux apprentissages. Donc, hein, cet outil qui a l'air de rien, qui au départ nous semble être un outil de l'élève, ben, on voit qu'il soulève pas mal de questions du point de vue de l'élève et des apprentissages, et c'est quand même au cœur du dispositif, mais aussi pour les professionnels qui ont à intervenir, qui le détournent comme outil de transmission, mais qui finit par devenir un outil très encombrant, hein, dans le fonctionnement du dispositif.
Alors, du coup, hein, on peut se poser la question pour terminer cet exposé très rapide, hein, de cette recherche qui, vous l'avez compris, est évidemment assez lourde, importante. Voilà. On peut se poser la question de quel intérêt finalement de la mise au jour de telles micro-situations qui, comme le dit Jean-Claude, sont finalement extrêmement bien connues de tous, et cela depuis 20 ans, voire 40 ans, hein, depuis les premiers travaux de Glassman. Donc, en quoi elles permettent finalement à la fois de faire avancer le projet du réseau, de répondre à la demande qui nous est adressée, et puis quel est l'intérêt pour la formation plus largement, hein, autour de cette question. Alors, je vais un peu vite, hein, mais on peut dire qu'il a été convenu avec les professionnels qui sont engagés dans ce travail que cette question des devoirs et plus largement la question du travail personnel, hein, finalement, c'est une question qui n'est pas encore un objet de travail commun, qu'il n'y a pas encore de réelle réflexion collective, hein, sur cette question des devoirs. Et là, entendons-nous bien, cette impensée, comme on l'a écrit, ne veut pas dire évidemment que les enseignants, les AED, que la vie scolaire, que le chef d'établissement, que les intervenants de manière générale n'ont pas individuellement réfléchi à cette question. Mais l'intérêt, hein, je dirais, de cette intervention, c'est que d'une certaine manière, elle permet une certaine prise de conscience de cette impensée et des perspectives de faire de cette question un objet collectif de pensée, c'est-à-dire de pouvoir essayer de créer des règles et des outils communs, d'abord au sein du collège, puis plus largement, on le voit, entre l'école d'un côté et le lycée de l'autre, hein, en vue de faire finalement de cette question des devoirs un moyen d'amélioration des apprentissages scolaires, parce que c'est quand même bien ça, évidemment, la finalité. Donc ici, l'idée importante, hein, c'est bien de s'efforcer avec les gens qui sont engagés de co-construire des faits et de co-analyser des situations de travail en vue de pouvoir co-élaborer des réponses que nous avons définies comme étant des réponses locales, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici de produire, comme disait tout à l'heure Jean-Claude, des savoirs génériques. Non, c'est ici de produire des savoirs adaptés et en lien avec le projet d'établissement, mais aussi en lien et adaptés au contexte de ce réseau, à l'histoire des enseignants, à leur rapport, hein, au devoir, parce que, bien entendu, dans cet établissement, tous les enseignants ne sont pas d'accord sur le fait de donner des devoirs, hein, qu'ils jugent parfois comme étant contraires et contre-productifs. Donc voilà, c'est toute cette question avec laquelle il faut faire, hein, de manière à ce que ça soit évidemment de véritables ressources. Alors, pour le dire autrement, hein, c'est effectivement faire de ce milieu de travail un milieu de formation. Et peut-être que l'apport de cette intervention, c'est vraiment d'offrir ce milieu de co-analyse et de délibération à partir des traces que de l'activité réelle des professionnels que nous leur soumettons régulièrement. Et là, il faut dire évidemment que l'équipe de recherche n'est absolument pas là pour dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut défaire, et encore au moins comment il faudrait le faire, hein. De notre point de vue, elle est vraiment là pour créer un cadre, voilà, qui permette évidemment de débattre et de débattre, donc de pouvoir penser et de pouvoir agir. Donc peut-être, Jean-Claude, tu veux terminer cette.
Oui, ce schéma directement inspiré, hein, des travaux de François Danielou qui a été cité précédemment, hein, C'est-à-dire que voilà une conviction dans notre équipe que voilà analyse du travail et formation voilà font bon ménage. À quelles conditions? Ben voilà de créer la volonté d'améliorer le pouvoir d'agir et d'augmenter l'efficacité des professionnels. Et je le répète, non pas dans un souci de productivité, mais dans un souci d'efficacité d'entretien de la santé. Cette possibilité d'ouvrir des marges de manœuvre supplémentaires, hein, pour les professionnels, d'améliorer la qualité du travail dans lequel on peut se reconnaître et entretenir sa santé en se disant, ben voilà, ça c'est moi qui l'ai fait et je me reconnais dans mon travail. Ça nécessite évidemment de pouvoir penser et de réfléchir. Et par exemple, on voit bien que l'initiative, par exemple, de limiter la transmission de la prescription au chef d'établissement, font que voilà, on ne donne pas l'occasion de penser la prescription, hein. Je pense que nous, en analyse du travail, on pense que l'analyse au sens critique, mais positif du terme, hein, l'analyse de la prescription, c'est un signe de développement de l'expérience. Et pour ça, il faut pouvoir y avoir accès. Surtout pouvoir débattre, c'est-à-dire que ça a été souligné précédemment dans les interventions, la question du collectif nous paraît centrale. Donc ces trois piliers, hein, d'un milieu de travail comme un milieu de formation, c'est ce qu'on essaie d'entretenir dans nos modalités d'intervention, en augmentant en permanence des données qu'on recueille et qu'on traite et qu'on analyse, hein, on les réinvestit dans des débats avec les professionnels eux-mêmes. Comme l'a bien souligné Christine, nous n'arrivons pas avec des catégories préétablies, hein, en disant voilà ce qu'on va chercher. Non, les catégories vont émerger des débats, des pensées individuelles et collectives des professionnels devant leurs difficultés à agir et à essayer d'améliorer leur marge de manœuvre.
Donc l'idée là pour suivre un petit peu, c'est effectivement dans ce pouvoir débattre, c'est de débattre, hein, on l'a dit, avec les autres, avec les enseignants, les intervenants, les familles, le périscolaire, hein, mais c'est aussi débattre avec soi-même sur les choix et les non-choix que ces équipes font ou ne font pas. C'est ouvrir un cadre où l'on va mettre, vous l'aurez compris, on va mettre en regard le travail des uns et des autres, on va mettre en regard leurs difficultés, mais aussi les moyens qu'ils se donnent pour surmonter ces difficultés. On va aussi mettre, comme le disait Roland Guagou hier, hein, on va aussi pointer effectivement des manières de faire recommandables, hein, efficaces, pas uniquement sur les difficultés évidemment, encore que ces difficultés, elles permettent aussi d'objectiver parfois les critères implicites de l'action, ce qui permet donc de les questionner, de les reprendre, de les développer. Et l'idée ici étant de faire peut-être advenir d'autres interprétations, d'autres paroles, d'autres événements. Tout cela évidemment, si les professionnels jugent cela nécessaire, pertinent et nécessaire. Voilà. Donc pour terminer cette présentation, on pourrait dire que finalement cette opportunité de pouvoir, en citant Patrick Mayen, construire une compréhension du point de vue de l'autre et pouvoir se situer dans la coactivité avec lui. Et plus largement, ce souci permanent qui est le nôtre, hein, de chercher à créer une véritable coopération entre le terrain et la recherche, en prenant très au sérieux le travail entrepris par les uns et les autres, et en pariant surtout, hein, sur l'intelligence des situations qui sont mises en œuvre. C'est un petit peu lorsque l'IFE dit parier et postuler sur la cohérence, hein, les gens ont de bonnes raisons de faire et de ne pas faire ce qu'ils ne font pas. Donc ici, j'ai envie de dire que ce souci permanent, hein, permet assez modestement, mais pour autant, finalement, la création d'une espèce de communauté interactive d'apprentissage et qui s'efforce finalement de faire de ce réseau kiné un réseau apprenant.